sur mobile, c'est Ici Matin.
Mardi 3 mars, jour de pleine lune, il est 7h. Les infos, Mathieu Ferry, bonjour.
Bonjour, la sécurité des ressortissants français est une priorité, c'est ce que nous dit le ministre des Affaires étrangères, alors que le Moyen-Orient est en feu depuis ce week-end. 400 000 Français vivent ou sont de passage dans les pays du Golfe, comme Laetitia, une Gersoise qui vit à Dubaï depuis 16 ans. Elle est arrivée aux Émirats Arabes Unis avec sa famille et malgré les explosions entendues ces derniers jours et les attaques de drones iraniens, elle relativise.
Nous, on est en face de la base militaire de Jebel Ali. Je vous cache pas que oui, effectivement, on a eu quand même peur parce que quand on entend le bruit de l'interception dans le ciel, on peut pas ne pas avoir peur. Évidemment, il y a des retombées, forcément, les débris font des dégâts. Oui, on a eu peur, mais en même temps, on se sentait en sécurité. Quand on a vu qu'ils avaient intercepté les premiers missiles et les premiers drones, après, on n'a pas du tout paniqué. Là, j'arrive du supermarché, en fait. Aujourd'hui, j'ai été travailler, j'ai pris ma voiture. Moi, je suis coiffeuse ici, coiffeuse à domicile, et j'ai circulé normalement, en fait. On a beaucoup de vidéos aussi du gouvernement qui nous disent qu'on est protégé et qu'ils ont le système le plus efficace au monde. Après, évidemment, attention, si c'est la guerre comme au Liban, les pauvres, effectivement, là, on prendra l'avion.
À noter qu'hier, les deux seuls vols directs entre Toulouse et un aéroport du Moyen-Orient ont été annulés. C'était les vols Transavia vers Tel Aviv. Airbus suit aussi particulièrement la situation. L'avionneur toulousain emploie plus de 1000 personnes dans les pays du Golfe. D'ailleurs, le Moyen-Orient est un des marchés de l'aviation à la croissance la plus rapide au monde. Beaucoup de compagnies sont clientes d'Airbus comme Emirates ou Qatar Airways.
Jérôme Bail au cinéma.
Oui, la grande gueule sur grand écran. À partir de demain, l'éleveur de Montesquieu Volvestre, le fondateur des Ultras de la 64, a été suivi pendant un an et demi par Édouard Bergeon, qui a déjà réalisé par le passé Au nom de la terre ou encore L'amour vache. Ce nouveau film qui s'appelle Rural, c'est un moyen de voir le très médiatique Jérôme Bail sous un autre angle, c'est-à-dire chez lui, dans sa ferme. Et l'éleveur qui veut d'ailleurs, avec ce film, sortir de l'image de l'agriculteur en colère qui lui colle à la peau.
Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'on ne devient pas agriculteur. On est agriculteur et on l'a en nous. Ça, c'est un truc qu'on a en nous et on nous a transmis quelque chose. Et donc à nous de le retransmettre aux générations futures. Mais pour qu'on arrive à retransmettre aux générations futures, il faut aussi amener du positif dans ce métier. Parce qu'on parle que de colère, moi, alors ça m'énerve, je vais pas dire que je m'énerve, mais ça m'embête un peu qu'on dise Jérôme Bail, c'est le leader de la colère agricole. Non ? Je préférerais qu'on me dise du mot fierté agricole. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fierté qu'il faut retrouver. Être en colère, c'est un mauvais sentiment. Et c'est pas un sentiment qui fait avancer. Aujourd'hui, il faut faire avancer l'agriculture. Il faut redorer ce blason de l'agriculture française, de ce monde rural, pour attirer les jeunes avec nous. Et leur expliquer.
Et pour parler de ce film Rural, son réalisateur Édouard Bergeon sera notre invité tout à l'heure, 8h moins le quart.
Montauban peut-elle basculer à gauche? C'est l'un des enjeux des municipales dans la région.
Oui, parce que l'ancienne maire Brigitte Barège ne peut pas se présenter. Elle est inéligible, condamnée pour compte de campagne frauduleux. Elle soutient désormais son ancien directeur des services, Didier Lallemand, qui est appuyé par une partie de la droite et le Rassemblement National. Il devra affronter une autre liste de droite, celle des Républicains, Thierry Deville. Une liste de gauche aussi en face, PS Écolo, Arnaud Hillion. Il y a également une liste LFI menée par Samir Chiqui. Mais plus que les étiquettes politiques, quelles sont les attentes des Montalbanais? Philippe est un retraité de l'armée, il a 60 ans, et il résume bien ce que pensent de nombreux habitants.
Prioritairement à Montauban, je pense qu'il y a amélioré, ce sont des places de stationnement, aménager ou réaménager des pistes cyclables, parce que celles existantes ne sont pas très fonctionnelles. Bon, le centre-ville s'est bien amélioré ces dernières années, ça a bien été, les travaux de rénovation ont bien embelli la ville. Cependant, je pense qu'il y a un petit problème de sécurité également le soir, bon, sur certains quartiers de la ville, quoi. Si, en centre-ville aussi, il y a vers le rond-point des Totons Flingueurs, c'est un peu insécure. Il y a encore beaucoup de choses qui sont perfectibles, compris l'aménagement des quartiers un peu extérieurs. L'essentiel de l'effort est concentré sur le centre-ville, sur l'extérieur de Montauban. La voirie est déplorable. Bon, il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là.
Et en tout, il y a 7 listes déclarées à Montauban. Il y a aussi celle de Richard Blanco pour Lutte Ouvrière, Jean-Philippe Labarre avec les colistiers PRG, Modem et Renaissance. Autre liste, celle menée par Jean-Loup Lévy. À Toulouse, y aura-t-il une union de la gauche pour le second tour? Le socialiste François Briançon écarte cette possibilité, en tout cas en l'état. Dans un communiqué, il dénonce les récents propos de Jean-Luc Mélenchon, qui ont, je cite, des relents antisémites. Il demande au candidat insoumis François Piquemal de prendre ses distances et de clarifier sa position. Quelques heures plus tard, l'équipe de François Picmal a publié une réponse. Elle affirme haut et fort que seule l'union des deux listes de gauche peut redonner à Toulouse une mairie de gauche. Un rassemblement permettra de l'emporter, dit l'équipe insoumise.
L'horizon juridique s'éclaircit pour la LGV Toulouse-Bordeaux.
Ouais, le futur train à grande vitesse. Le Conseil d'État a rejeté hier le recours des opposants qui dénonçaient la déclaration d'utilité publique. Ce n'est pas le premier recours, il y en a déjà eu un en 2018. C'est donc la seconde fois que le Conseil d'État confirme l'utilité de ce projet. Mais il y a quand même une incertitude financière désormais, puisque l'État pourrait remettre en cause sa participation dans le projet. On devrait y voir plus clair d'ici cet été. Une vingtaine de pompiers mobilisés hier en Ariège, au sud de Foix, à Montgaillard. Ils interviennent avec des agents de l'ONF, l'Office National des Forêts, pour un brûlage dirigé de 25 hectares, un éco-brûlage donc encadré par les pompiers pour permettre la réouverture pour le pastoralisme.
Vous écoutez ici Occitanie, 7h05. Un atelier numérique pour les femmes à Toulouse, quartier Bellefontaine.
Oui, formation de 6 mois qui a commencé en septembre dernier pour utiliser au mieux une boîte mail, ne pas être perdu devant un PowerPoint, vous savez, une présentation sur grand écran, un tableur Excel aussi. Il faut savoir maîtriser ces outils quand on est en recherche d'emploi. En tout cas, cette formation, elle est portée par l'association toulousaine Flaconville, la présidente Véronique Casanova.
C'est une formation de base, mais nous avons intégré également tout l'accompagnement personnalisé avec du coaching en confiance en soi et en estime de soi. Parce que c'est vrai que ça nous paraissait très important aussi de pouvoir accompagner ces femmes, parce que c'est quand même des femmes qui sont en situation de reconversion. C'est quand même tout âge. Il y a des femmes aussi qui sont issues de l'immigration. Donc ça nous paraissait très important aussi de les aider à avoir confiance en elles et avoir l'estime de soi pour elles au quotidien. Parce que c'est vrai qu'une formation numérique, c'est un outil, quoi. Nous, on va mettre en place des outils. Mais si derrière, vous n'avez pas une attitude de confiance en soi, on n'avance pas dans la vie.
Reportage complet tout à l'heure, 7h30, la Coupe de France de foot, premier quart de finale ce soir, Strasbourg-Reims, c'est à 21h. Demain soir, le TFC joue à Marseille.
La météo 100% locale avec Azureva Vacances, votre spécialiste des vacances en France et en famille depuis 75 ans. Retrouvez nos destinations sur azureva-vacances.com.
Bon, Alban, il n'y a pas d'eau du tout.
Bah oui, robinet coupé. Pas de goutte. Hein.
On parle bien de la météo.
Ah oui, c'est un joli travail de plombée.
Ah oui.
Météo sec, voilà. On a un soleil, un chouïa voilé dans la région et dans la journée. Pour l'instant, c'est la pleine lune qui est voilée. On a 7 ou 8 degrés le plus souvent au réveil. Et localement, 11 degrés la place du Puy à Toulouse. Au goûter vers 16h. C'est vrai qu'on aura encore les gouttes qui tombent.
Ouais. Parce que... goûter, quoi.
Bah, il est coupé, mais ça goûte quand même. Qu'est-ce que c'est, ce robinet ? Vous n'avez encore pas fermé après le brossage de dents. Ça, c'est votre faute, ça.
Je fais attention, pourtant.
C'est nul, hein. Alors, température cet après-midi à Castelnaudary, 14 degrés, à Marsac, sur Tarn et Villefranche-de-Rouergue, 16, à Boulogne, Saint-Aurin, c'est au Lerme, 16 aussi, Figeac et Saint-Lizier, 17, Lille-Jourdain, 18, Cassel-Sarrazin, 19. Bon, on n'a pas besoin du parapluie aujourd'hui. En revanche, le vent de sud-est est encore assez fort sur Toulouse et le Lauragais. Demain, plein soleil sur le canal du Midi. Le trafic, sur la 61, dans le sens Toulouse-Narbonne, un accident de poids lourd depuis très tôt ce matin après Carcassonne. Donc, prudence au point routier 347 dans l'Aude à hauteur de 12 ans. Mais sinon, ça roule, hein, notamment sur la rocade toulousaine.
Ici Occitanie.
Actu locale, musique et bonne humeur.
Vous avez fait des rêves cette nuit? Ou des cauchemars peut-être? Ou peut-être que vous n'avez pas dormi avec cette pleine lune, je ne sais pas.
Moi, j'ai rêvé que j'étais de matinale.
Ah oui, ça c'est pas un rêve, Mathieu, hein, pensez-vous. Je vous jure, on est là depuis très tôt, puis c'est pas fini. Hein. Ouais. Allez donc au bout de vos rêves, hein, faites ça.
J'y vais.
Jean-Jacques Goldman qui a créé la chanson des Restos. Vous savez qu'elle fête ses 40 ans cette année. Pour l'occasion, Goldman donnera une interview exclusive à TF1 dans quelques semaines. En tout cas, cette année encore, les Restos du Cœur ont choisi leur radio partenaire et c'est la vôtre. Ici Occitanie soutient les Enfoirés. On compte sur vous pour acheter le CD ou le DVD du dernier concert. 17 repas à chaque fois pour les Restos du Cœur. Puis la prochaine grande collecte des Restos, c'est vendredi et tout ce week-end. Et là aussi, on compte sur vous.
Ici Occitanie,
Alban Forlot.
Ici Matin.
À suivre les conditions, on va parler humidité et puis dans un instant mon œil. Réfléchissez bien, vous avez probablement une connaissance lointaine ou pas coincée au Moyen-Orient avec le conflit en Iran. On s'en parle après ceci.
Ici Occitanie.
Bienvenue chez vous.
Tous les jours pendant les vacances, les incontournables de la région.
Sébastien Bretonneau.
Le programme est merveilleux. Ce mardi, on file dans l'Aude pour visiter ce beau département entre terre et mer. Œnotourisme, carnaval, monuments, on fait le tour de l'Aude ce mardi.
Bienvenue chez vous. Écoutez Ici Occitanie, tous les jours à 9h. Ici Occitanie.
Premier sur l'actu locale en midi toulousain.
Ici Matin.
Mon œil. L'actu en un regard. 400 000 Français se retrouvent depuis samedi au cœur de cette guerre au Moyen-Orient. 400 000 et leurs proches, leurs amis, forcément très inquiets, David Ossiou.
400 000, c'est beaucoup, oui. C'est le chiffre donné par le ministre des Affaires étrangères. C'est comme si toute l'agglomération de Bordeaux ou de Toulon ou de Strasbourg se retrouvait dans cette situation. Il y a le touriste qui a posé ses valises à Dubaï pour une semaine de soleil, les enfants dans la piscine, l'hôtel de rêve. Il y a le cadre en déplacement professionnel qui est arrivé pour trois réunions, qui devait repartir vendredi, enfin c'est ce qu'il croyait. Et puis il y a ceux qui ont choisi de vivre là-bas, à Dubaï, à Abu Dhabi, attirés par le dynamisme de ces villes, par une carrière internationale, peut-être aussi par une fiscalité plus douce. Mais depuis samedi, on voit beaucoup circuler de vidéos d'influenceurs bloqués à Dubaï. Les réseaux sociaux se déchaînent. Les Français là-bas, ça n'est pas que ça. Dubaï, c'est devenu une destination comme une autre. On y va sans escale depuis Nice, depuis Lyon. Et réfléchissez bien, vous avez certainement une connaissance là-bas. Fanny, directrice d'une école à Rouen, qui est de retour de vacances en passant par Dubaï. Ses élèves l'attendent toujours. Plus de 63 000 Français vivent aux Émirats Arabes Unis. Rémi Vercoutre, l'ancien gardien de l'Olympique Lyonnais, entraîne les gardiens d'un club là-bas. Et puis il y a des ingénieurs, des enseignants, des commerçants, des salariés d'entreprises françaises, des gens qui ont simplement construit leur vie ailleurs. Depuis samedi, ils ne pensent qu'à la consigne. Restez confinés, éloignez-vous des fenêtres. Ils appellent tous le même numéro, le centre de crise à Paris. On pourrait être cynique, dire « vous avez choisi de partir, assumez ». Mais non, tous ces ressortissants ne sont là qu'au mauvais endroit, au mauvais moment. Et tous doivent savoir qu'ils sont de la même nation et qu'une nation n'abandonne jamais personne.
Et même d'une région à retrouver nos Occitans coincés au Proche-Orient sur ici.fr. Il est 7h15. L'actu, on joue avec, parce qu'on vous pose des questions chaque jour, et puis on vous offre en l'occurrence une carte cadeau de 20€ à dépenser comme vous voulez, donc faites-vous plaisir au 05 34 43 31 31. C'est quoi votre question aujourd'hui, Mathieu ?
Eh bien, cette question tourne autour du film dont on vous parle depuis ce matin, autour de Jérôme Bail. On recevra d'ailleurs le réalisateur tout à l'heure, Édouard Bergeon, à 8h moins le quart. Mais quel est le titre de ce film ? Est-ce que c'est tribal, rural ou phénoménal ? Phénoménal, rural ou tribal.
Un petit indice, ça se termine en al. Voilà.
Et ça se passe à la campagne.
Ah, ça se passe à la campagne. Ouais. Du coup, c'est pas en ville. C'est
non.
Voilà. Donc 05 34 43
31. Rien à voir
31.
Avec les municipales.
Non. Voilà. Bonne chance. Avant l'écho d'ici, voici Monet. Écoutez, les choses sont bien faites. Hein, voici à bas. Vous avez compris Monet, l'écho ou pas?
Je l'ai.
Ah,
je
très
l'ai.
Bien. Facebook d'ici Occitanie, une info capitale de Sarah. Il fait encore nuit. Ben, merci Sarah pour l'info, vraiment. J'ai compté sur vous aujourd'hui. On a Dominique qui dit 11 degrés sur Pibrac, ciel assez couvert. J'ai une très mauvaise nuit avec cette pleine lune. Mais à l'inverse, Vanessa qui a 8 degrés à Saint-Gaudens, ça nous dit bah non, moi je suis super bien dormi. Et il y a longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Vanessa, si vous pouvez arrêter de crâner, ça nous arrange, merci. L'écho d'ici, le rendez-vous des entreprises de notre région. Clémence Fuleda, votre invitée, c'est un entrepreneur tarné-garonnais qui a trouvé une solution pour lutter contre l'humidité de bâtiments.
Bonjour William Coignard.
Bonjour.
Merci d'être là ce matin. Vous avez fondé Humidistop en 2012, dont le siège est à Montauban. Avec des températures qui baissent aujourd'hui, on risque de voir beaucoup d'humidité rentrer dans les foyers. Est-ce qu'on sait combien de foyers en Occitanie sont vraiment touchés par l'humidité ?
Alors, on est à peu près à 40% de taux d'humidité au niveau des logements, c'est-à-dire que soit il y a des problèmes de condensation, soit des problèmes de moisissure, soit des problèmes un peu plus structurels, des remontées d'humidité ou ce genre de choses.
Et alors vous avez pensé, conçu un appareil qui permet de retenir, d'éviter l'humidité qui ressemble, vous nous en avez amené un ce matin pour ceux qui nous regardent sur France 3, à une box en fait.
Exactement, je l'ai dans la main, c'est comme une box, on le met directement sur le mur d'origine, le mur humide, dans les vieux bâtiments. Et ça permet, entre guillemets, de faire redescendre l'humidité résiduelle qu'il y a dans vos murs par rapport aux bâtiments anciens. Ça se branche. Alors voilà, une alimentation toute simple sur la prise de courant. Vous le branchez, vous le mettez directement sur le mur porteur humide, je précise. Et ça va envoyer des pulsations électriques à l'arrière de l'appareil qui va permettre d'aller dépolariser et déstabiliser les molécules d'eau et les faire redescendre.
Et ça, juste une box comme ça permet de déshumidifier toute une maison, par exemple ?
Oui, alors après, tout dépend de la construction de la maison. Il faut que la construction de la maison soit au même temps. C'est-à-dire que si c'est 1932, il faut que ça soit en même temps. Si par hasard, c'est un corps de ferme fait en plusieurs fois, il faut mettre plusieurs appareils.
Et ça coûte combien un appareil comme ça en moyenne ?
Ça commence à 1 200 euros et pour les très gros bâtiments, on est plutôt vers les 2 200 euros.
Ok, donc c'est quand même un gros investissement.
Exactement.
Est-ce que vraiment ça peut améliorer, réduire l'humidité et vraiment nous permettre de rentabiliser cet investissement à 1 200 euros quand même ?
Oui, alors après, il faut savoir quand même que l'humidité, il ne faut pas la prendre à la légère. Vous avez les structures, il faut refaire ses peintures, il faut refaire ses enduits. Vous avez aussi les problèmes d'humidité au niveau de la santé. Donc il y a quand même beaucoup d'éléments. Il faut savoir que ce type d'appareil équipe la plupart des bâtiments publics en Occitanie. Ça vous donne un exemple. Dans les églises où vous allez dans le coin, dans les mairies, dans les vieux bâtiments, c'est ce qu'ils mettent pour pouvoir traiter l'humidité.
Et ce sont vos clients ?
Alors, une grosse partie, alors on est prêt, on n'est pas les seuls en Europe à faire ce genre de produit. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que bah, la plupart des bâtiments autour de nous, même la mairie de Toulouse, etc., connaissent ce type de système.
Et en tant que particulier, on peut également...
Oui, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est très accessible. Il y a quelques années, c'était pas du tout accessible. Et aujourd'hui, vous pouvez les acheter sur Internet et en grande distribution aussi, dans les différents sites spécialisés.
Vous avez vendu 15 000 appareils depuis 2012.
Exactement.
Vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 1,2 million d'euros en 2025. C'est quoi la suite?
Alors, nous, on travaille pas qu'en France. Aujourd'hui, il y a quand même un climat un peu morose au niveau économique. Et donc, aujourd'hui, on est aussi présent en Espagne, en Italie, en Pologne, en Belgique, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, nos produits français sont publicités partout en Europe, voire un peu plus loin. Nos clients les plus lointains sont en Australie.
Merci beaucoup, William Coignard. Vous êtes le fondateur d'Humidistop et vous disiez français puisque vous travaillez avec une usine de Castres, je crois, l'entreprise.
Exactement. On fabrique avec notre partenaire Cizelec directement sur Castres. Et il faut savoir que pour nous, c'est très important le local parce que c'est un circuit court. Ça coûte pas plus cher de fabriquer ici.
Voilà, merci beaucoup, William Coignard. Bonne journée à vous.
Et alors, humidité encore avec le lac de Julien Doré. Le lac de la Ramée, de fait, hein, ou celui de la Ganguise, d'ailleurs, peut-être. Merci de faire de votre footing en nous écoutant au bord du lac de Saint-Ferréol. Je peux tous les faire, hein. Le lac de Parelou, que vous voulez.
Madone et le lac se dessine. Courageux, c'est fort, où rien ne respire. T'aimais sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. T'aimais sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent. Sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. T'aimais sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. T'aimais sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent. Amoureux de l'ombre.
Vous écoutez ici Occitanie, l'actu revient dans à peine 4 minutes. Avec OM-TFC demain en Coupe de France, on parle du programme des quarts de finale juste après ça.
L'obésité n'est pas un choix. Moi, je voudrais qu'on me regarde normalement, qu'on m'écoute et qu'on me considère comme tous les autres. Ainsi, mon corps ne serait pas un frein à l'emploi. Je trouverais des vêtements à ma taille, je serais soigné et traité avec bienveillance. L'obésité n'est pas un choix. C'est une maladie aux causes multiples. 8,5 millions de Français sont touchés aujourd'hui. Relevons la tête, mettons fin à nos préjugés sur la maladie obésité.
Groupama. Cerise nous dit pourquoi Groupama sera toujours un point de repère pour vous.
Rien de grave, Victor.
Non, Cerise, c'est juste un accrochage. Mais je dois faire réparer ma voiture rapidement et en ce moment, j'ai beaucoup de dépenses.
Rassurez-vous, Groupama est là. Si vous la faites réparer dans un de nos garages partenaires, vous n'aurez pas de frais à avancer. Nous les prendrons directement en charge.
Ah, merci Cerise, je vais appeler mon conseiller.
Et il vous trouvera le garage partenaire le plus proche de chez vous.
Groupama.
Groupama, toujours là pour moi.
Plus d'infos sur groupama.fr. Pour les conditions et limites des garanties, se reporter au contrat.
Ici Occitanie.
Sur la route, au travail, à la maison.
Actu locale, musique et bonne humeur.
Avec Nadine qui est à Toulouse, du côté du quartier des Demoiselles. Bonjour Nadine.
Bonjour Alban, bonjour Mathieu.
Et bonjour.
Comment allez-vous ce matin ?
Eh bien écoutez, très bien.
Vous savez qui sont ces Demoiselles du pont des Demoiselles ?
Oui.
Ouais. On le dit à la radio ou c'est trop tôt, pensez ?
Non, quand même, je pense que voilà, oui, on peut le dire.
Les demoiselles de petite vertu, on va dire. Pendant que les ouvriers créaient le canal.
Des filles de joie.
Avec le boulevard Mon Plaisir, pas très loin.
Oui, bah c'est ça,
évidemment,
voilà.
Tout est lié.
Alors Nadine avec plein de monde, hein, parce que je dirais, il y a des oiseaux autour de vous, Nadine.
C'est ça. Il y a beaucoup de pigeons, donc il y a des mésanges, des moineaux, des perruches vertes, oui.
Il y a même un chat, dis donc, ce matin, à côté de vous.
C'est ça, il y a même deux chats, même. Mes voisins sont partis, donc, en vacances, et je m'occupe, donc, de deux chats, qui s'appellent un Napoléon et l'autre Pomponette. Voilà.
Bon, on vous pose la question d'actu.
Oui, vous parlez des oiseaux, ouais. Nadine. Il y a des palombes aussi dans le documentaire qui sort demain, documentaire d'Edouard Bergeon, ce film autour de Jérôme Bail. Trois propositions pour ce nom de film, tribal, rural ou phénoménal, Nadine ?
Rural.
Rural, félicitations, évidemment. Vous irez le voir, d'ailleurs, au cinéma ?
Comment ?
Est-ce que vous allez le voir au cinéma ?
Oui, il y a de fortes chances, oui. Alors,
on le conseille, en tout cas. Bon, ma petite Nadine, je vous fais des gros bisous pour cette journée. Rappelez aux autres auditeurs quelle est la meilleure radio du monde, je veux dire, en toute modestie, bien sûr. Hein.
Ah, bien sûr. Ici Occitanie.
Ici matin, en Occitanie, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
Dans un instant, l'info d'ici nous emmène quartier Bellefontaine à Toulouse. Nous sommes le mardi 3 mars. Il est 7h30. Merci de nous rejoindre. L'actu en France et dans le monde, c'est le 90 secondes. Avec vous, Valentine Letès.
Les États-Unis répondront bientôt à cette attaque. Promesse de Donald Trump à l'Iran après les tirs de drones sur l'ambassade américaine de Riyad cette nuit. La guerre s'étend désormais à l'Arabie Saoudite. Mais en ce moment même, c'est Israël qui mène des frappes sur l'Iran et les positions du Hezbollah au Liban. Plusieurs jours, plusieurs semaines de perturbations sont à venir sur le trafic aérien, affirme le président d'Aéroports de Paris. Mais de premiers Français de retour du Moyen-Orient ont atterri hier soir, 247 à Roissy-Charles de Gaulle. Et la pression s'accentue sur le commerce de gaz et de pétrole. Leurs prix flambent sur les marchés, notamment par l'arrêt du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, où chacun des 170 pétroliers porte-conteneurs bloqués est menacé de frappe par l'Iran. Une expertise médicale de Tariq Ramadan ordonnée par la justice. L'islamologue absent au premier jour de son procès hier à Paris pour le viol de trois femmes est en Suisse, hospitalisé à Genève selon ses avocats. L'audience est suspendue jusqu'à vérification demain par des neurologues. 45% de hausse de salaire pour le patron de la Société Générale, soit quasiment 2,5 millions d'euros par an. La proposition du conseil d'administration ne passe pas auprès des syndicats. La CFTC notamment se dit choquée au regard des 1,5% d'augmentation obtenue par les salariés. Seul club de Ligue 2 encore en lice, Reims ouvre le bal des quarts de finale de Coupe de France de foot, opposé à 21h au Racing Club de Strasbourg.
Merci Valentine Lethès. Je vous ai même pas dit bonjour Claudia Calmel.
Eh bien bonjour Alban, bonjour,
bonjour
à tous.
Bienvenue.
Dans l'info d'ici, une question, peut-on s'insérer dans le monde du travail sans maîtriser les outils informatiques de base? Ça paraît compliqué aujourd'hui. De très nombreux métiers exigent de savoir utiliser une boîte mail correctement, de pouvoir écrire un texte dans Word et parfois même, aïe aïe aïe, de savoir faire un tableau Excel. C'est pour ça que l'association toulousaine Floconville a lancé une formation numérique destinée aux femmes éloignées de l'emploi. Formation gratuite de 6 mois, ça se passe quartier Bellefontaine, où des femmes se retrouvent 2 heures par semaine pour apprendre à se servir des outils numériques de base, mais pas que, Shannon Marini.
Pas d'ordinateur pour commencer, des images étalées sur une table. L'une des femmes prend une carte qui représente un labyrinthe.
Donc ça représente un petit peu la période dans laquelle je me trouve actuellement. Donc je suis en reconversion professionnelle. Donc je suis en train de chercher un petit peu ma voie.
Installées en rond, elles partagent chacune leur histoire. Le premier cours est un atelier de coaching pour reprendre confiance en soi. Il y a aussi des femmes qui sont arrivées en France il y a peu de temps, en pleine demande d'asile. Noumou est venue de Guinée, elle vient d'avoir ses papiers.
Je suis très très contente. Enfin, je vais pouvoir amener mes enfants auprès de moi. Je pourrais travailler et puis réaliser un peu de mes rêves.
Pour l'instant, elle est femme de ménage.
Cet atelier numérique, c'est très très important pour moi. Je fais un peu l'économie d'entreprise au pays. Donc du coup, j'aimerais bien m'orienter dans la gestion d'entreprise. Et je peux aussi faire mes démarches pour une demande de travail. Donc du coup, je peux postuler seul sans l'aide de quelqu'un. En fait, je peux être enfin libre et indépendante.
Savoir se servir de ces outils, c'est important. Et pour réussir un entretien, il faut avoir de l'assurance pour pouvoir se présenter devant des inconnus. Alors pourquoi pas à l'aide de cartes comme dans cet atelier.
C'est une façon en fait ludique de parler de soi. Je m'appelle Sonia Vesbert. Je suis coach professionnelle spécialisée dans la gestion du stress et des émotions. Là aujourd'hui, c'était vraiment de créer de la cohésion en fait pour ces femmes, leur permettre de se connaître, leur permettre de créer du lien, de se rendre compte qu'elles ont plein de résonances entre elles. Elles cherchent toutes du travail, elles vivent des choses difficiles, elles sont loin de leur pays. Et donc l'intention, c'est vraiment de les aider à se connaître, à se soutenir, à voir qu'elles ont plein de qualités.
La formation dure 6 mois, 2 heures par semaine, sauf pendant les vacances scolaires. L'association s'est adaptée puisque beaucoup de ces femmes ont des enfants.
Le reportage de Shannon Marini à retrouver sur ici.fr.
Dans les infos de 8h tout à l'heure, Claudia, on parlera de la situation au Moyen-Orient.
Israël continue ses frappes sur Téhéran et sur le Liban, et Dubaï est pour sa part visé par des drones iraniens. Le trafic aérien sur place est paralysé. Dubaï, où Thomas et sa famille sont bloqués, ils sont toulousains. Ils habitent quartier Côte Pavée, ils sont en vacances à Dubaï depuis 15 jours. Ils devaient rentrer ce mercredi, mais ils ont finalement trouvé un vol uniquement pour lundi prochain. Et puis on parlera aussi à 8h de ce documentaire qui sort au cinéma demain dans toute la France. Il s'appelle Rural et il raconte le parcours de Jérôme Bail, le leader des Ultras de la 64. Cet éleveur de Montesquieu-Volvestre était à l'origine, vous le savez, de la grande mobilisation de janvier 2024 qui a ensuite essaimé dans toute la France.
Et puis d'ici là, notre rendez-vous avec les Pitchounes, c'est la récré des Pitchounes.
On parlera direction d'orchestre, on leur demandera ce qu'est un chef d'orchestre à nos Pitchounes.
Oui, il fait comme ça, regarde.
Avec une baguette.
Il fait comme ça, tac, il y a le vent.
Vous faites bien le chef d'orchestre,
le vent,
vous chassez les nuages.
Ah là là, le soleil d'abord. Non mais c'est vrai que ça souffle encore, on a le gazon qui est secoué. Vent d'automne à 50 km
ouais,
sur la région toulousaine, voilà. Et puis toujours ce soleil un peu voilé. Il y a beaucoup de nuages en montagne, mais sinon ailleurs, c'est un soleil un peu voilé. 11 degrés là ce matin sur le pont neuf de Toulouse, c'est 7 ou 8 degrés ailleurs. Et puis dans la journée, sur votre perron, au Carlabas, il est à Castres, 16 degrés. À Mondonville, à Pompertuzat et quartier Saint-Cyprien à Toulouse, 16 aussi. À Luchon, 17. À Saramont, dans le Gers, 18. À Auvillard, 19. Et un ciel bleu demain pour le coup pour vos randos. Sur la route, on a un peu de monde, quelques ralentissements là sur la rocade près du péage de Toulouse-Nord, mais franchement, dans l'ensemble, ça roule bien. À la SNCF, on a toujours des trains ralentis, vous le savez, entre le Tarn et Matabiau, à Saint-Sulpice-la-Pointe notamment, ce sont les conséquences de la tempête. Donc voilà, quelques retards à l'arrivée à Toulouse, mais franchement, dans l'ensemble, c'est plutôt top.
Ici Occitanie.
Actu locale, musique et bonne humeur.
Bon réveil et surtout bon voyage. C'est ici matin.
C'est l'eau qui vous sépare.
Clin d'œil aux vacanciers qui se réveillent avec nous.
Ici Occitanie.
Alban Forlot.
Ici Matin.
7h39. Avant les fourchettes italiennes de Catherine de Médicis, il y avait les doigts. Et on mangeait avec les doigts. Alors, histoire de table et de nappe au temps du Moyen-Âge avec Stéphane Bern, ce sera avant 8h. Et puis, à suivre l'invité de Ici Matin, Édouard Bergeon, réalisateur du documentaire Rural qui sort demain avec Jérôme Bail.
Il doit guider les musiciens.
Dans la récré des Pitchouns, on sort la baguette ce matin. Cette semaine, on est avec Youssef, Yacoub, Wail, Lila, Alia, Roumaïssa et Sierra Mama. Ils sont en CM2 à l'école Georges Hillon de Toulouse et ils commentent l'actualité. Aujourd'hui, on leur a donc posé cette question. C'est quoi un chef d'orchestre ?
Il doit guider les musiciens et avec sa baguette pour qu'ils puissent bien jouer et qu'ils ne ratent pas.
Ça ne sert à rien. Juste y bouger une baguette.
C'est pas mon style. Costume noir.
Si, c'est fort, mais il faudrait beaucoup de travail. Il faudrait beaucoup de temps pour faire ça. Pour être dans une grande salle pour travailler, pour apprendre beaucoup de trucs.
C'est un peu ancien, ça.
Il faut garder ça parce qu'il y a des mamies et des papis qui écoutent. Sinon, bah, après, ils vont être tristes.
Mais il y a des gens aussi, ils aiment la musique classique.
Après, les papis et les mamies doivent aussi écouter du moderne.
Après, il faut changer.
Non, 2026 quand même.
C'est Gims la mode.
Maître Gims.
Ouais, il faut changer. Bon, Maître Gibbs, on est assez loin de la musique classique, mais comme son nom l'indique, le chef d'orchestre dirige les orchestres, c'est le capitaine d'équipe, celui qui donne la direction, l'indique aussi aux musiciens, comme les violonistes, les flûtistes ou les percussionnistes, s'ils doivent jouer fort ou plus doucement, s'ils doivent jouer vite ou lentement, ça s'appelle les tempos. Le chef d'orchestre coordonne tout ça, vous le disiez, les pitchouns, avec une baguette qu'il tient en général dans la main droite. Et oui, parce que si chacun faisait ce qu'il veut de son côté, ce serait une vraie cacophonie. famille, des chefs qu'on n'entend pas, mais qu'on voit, on les voit face à leur orchestre et dos au public, on les voit s'agiter comme ça quand ils dirigent. Parmi les grands chefs d'orchestre qu'on peut citer, qui ont marqué, bien sûr,
vous
évidemment,
très bien, là, vraiment,
avec la baguette comme j'ai un petit peu de pratique. Parmi les chefs d'orchestre qui ont marqué l'histoire de la musique classique, histoire récente, on peut citer l'Allemand Kurt Masur ou encore l'Autrichien Herbert von Karajan, qui avait eu la particularité de diriger sans baguette, parce que oui, c'est pas obligatoire, on peut aussi diriger juste avec les mains. Est-ce que vous savez, cher Pitchoun, qui dirige l'orchestre du Capitole à Toulouse? Eh bien, c'est Tarmo Peltokoski. Il est finlandais, il a été nommé il y a un an et demi, c'est un extraterrestre dans le milieu, puisqu'il a seulement 25 ans. Il est tombé dans la musique classique quand il avait 11 ans, en regardant sur YouTube une vidéo de Wagner. Il s'est pris de passion pour ça.
Oh, vraiment, allez, place du Puy à la Halle au Grain. C'est un moment particulier de voir
très
cet
émouvant
orchestre du Capitole. Merci les Pitchoun, à demain. La musique revient très vite avec Santa, avec Elton John aussi dans Ici Matin avant 8h.
Ici Occitanie.
Tous derrière le TFC.
Et si le TFC braquait le Vélodrome? Pas le choix. Pour passer les quarts de finale de Coupe de France, il faut battre l'OM dans son jardin, ce que Toulouse attend depuis 2012. Votre mission, si vous l'acceptez, aller chercher la qualif en demi au nez et à la barbe des Marseillais.
Vous me suivez?
Oui, je vous suis.
OMTFC, on va vivre ça ensemble dès 20h45 ce mercredi sur votre radio ici Occitanie.
Ici Occitanie, toute la journée.
Actu locale, musique et bonne humeur.
Tout ce que
cartonné au Zénith de Toulouse vendredi dernier. Santa, à l'instant. Sur la page Facebook de Ici Occitanie, un petit coucou à Juju qui nous dit qu'il fait 11 degrés à Muret avec un ciel nuageux, toujours de l'OTAN qui souffle. Mais bon, ça n'empêche pas de faire du sport. Hein. Sport en fin de matinée, une marche même cet après-midi. Juju, la sportive, on vous salue dans le Muretin et dans le Volvestre, notamment à Carbonne. Vous écoutez Ici Occitanie sur 91.8.
Ici Occitanie.
Premier sur l'actu locale en midi toulousain.
Ici matin.
Et c'est un film qui sort demain, mercredi, dans près de 180 salles en France. Un documentaire qui s'appelle Rural et qui a suivi pendant un an et demi l'agriculteur Jérôme Bail, la figure emblématique des ultras de la 64 et de la colère agricole. On se rappelle de ce début 2024. Édouard Bergeon, le réalisateur de ce film, est l'invité d'ici matin, Claudia Calmel.
Bonjour Édouard Bergeon.
Bonjour.
Vous avez réalisé de nombreux films sur le monde agricole, et notamment Au nom de la terre en 2019 avec Guillaume Canet, qui était un film de fiction. Pourquoi avoir choisi de consacrer un documentaire entier à Jérôme Bail? Qu'est-ce qui vous a intéressé ou accroché chez lui?
Je voulais faire une photographie de la France agricole et particulièrement de comprendre pourquoi étaient partis les colères du Sud-Ouest, en fait, pourquoi c'était parti de là-bas. Et quand on veut incarner justement un récit, il faut un personnage. Et il se trouve que le personnage charismatique du Sud-Ouest, c'est Jérôme Bail. Et il est d'ailleurs charismatique au-delà des frontières du Sud-Ouest, puisque aujourd'hui c'est une figure nationale des revendications agricoles, mais pas que des colères de l'agriculture en général. Donc, pour toutes ces raisons, il fallait que, je l'ai suivi pendant un an et demi.
Vous l'avez découvert comment? Dans les médias? Vous êtes dit, ce type, il a quelque chose? Faut que je le rencontre?
Je l'ai découvert, oui, comme tout le monde, dans les médias, puisqu'il a pris la parole, place du Capitole, en janvier 2024, avant d'aller bloquer l'autoroute avec ses copains. Et il est une sorte de miroir de moi-même. On a une histoire similaire, on a le même âge, on a nos destins, nos parents ont eu un destin commun, nos pères, pardon, agriculteurs. Et oui, je me suis dit qu'il fallait que je le rencontre. Après, il fallait qu'il accepte que je le suive, et ça n'a pas été simple. Il a fallu plusieurs semaines, plusieurs mois pour qu'il accepte et que je lui pose un cadre en lui disant je souhaite faire un film pour le cinéma. Dès le début, c'était un documentaire pour le cinéma parce que le Volvestre, c'est quand même très beau et il est au pied de la chaîne des Pyrénées. Et quand on fait du cinéma, on fait aussi beaucoup d'images.
Et il y a de très belles images, en effet, dans ce film qu'on sera amené à découvrir en salle. Et vous dites souvent que vous avez des hématomes crochus avec Jérôme Bail. Est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus?
Je viens de le dire, nos pères ont vécu un destin commun, donc ils ont mis fin à leur jour, donc c'est ce qui peut nous rapprocher.
Ça, justement, ça vous a raccroché, ça a créé des ponts entre vous.
Forcément, oui, quand on partage une histoire similaire, on se comprend mieux, donc c'est sûrement pour ça qu'il a accepté et qu'il m'a fait confiance. C'était important qu'on se fasse confiance tout au long du tournage. Moi, je ne questionnais pas, je venais observer Jérôme, sa maman, tous les personnages du film, et c'est ce qui fait que ça ressemble à un film de fiction. Quand j'ai fait à peu près 80 avant-premières partout en France, on est à plus de 12 000 entrées, et quand on rallume la salle à la lumière, les yeux sont rougis parce que les spectateurs ont vécu une histoire. Il était une fois Jérôme Bail, un agriculteur du Sud-Ouest, mais ça parle aussi bien dans le nord de la France qu'en Bretagne, que dans le Poitou, partout où je suis allé en fait, parce que l'élevage, c'est l'élevage en fait, c'est tous les jours, c'est proche de ses bêtes, c'est proche du vivant. Et c'est ce que je montre sans prendre parti pour un syndicat, de la politique, ou non, je filme. Vraiment, il était une fois un agriculteur et je reste sur le fil de l'émotion et de l'humain en fait.
C'est ça qui ressort de toutes les avant-premières que vous avez faites, notamment dans le Sud-Ouest, beaucoup d'émotions, un public qui vient nombreux et qui est touché. Mais est-ce que c'est un film qui est destiné plutôt à un public rural, ou est-ce que vous espérez que justement
ça touche? Non, c'est destiné à un film. Quand je fais du cinéma, moi, c'est destiné à tout le monde. Après, qui viendra voir le film, ça sera réponse demain et dans les jours à venir, à la sortie. Mais oui, particulièrement dans les avant-premières, je retrouve le public d'Au nom de la terre, donc un public plutôt rural où les gens me disent on vient se voir sur grand écran. Donc c'est hyper touchant, mais ça serait bien aussi que les urbains se sentent concernés aussi. On a fait des belles avant-premières dans certains centres-villes. Je me dis qu'on a tous une assiette devant nous tous les jours, donc l'agriculture nous concerne tous.
C'est ça aussi le message de votre film? C'est ça le message du film aussi que vous voulez faire passer? Notre rapport à l'agriculture? Ouais. Notre rapport à l'agriculture?
Moi, je suis fils d'agriculteur, on a des agriculteurs en France, ils sont de plus en plus menacés, et si le consommateur fait pas la démarche, quand il le peut, d'acheter des produits français, régionaux, il y aura peut-être de moins en moins d'agriculteurs. Donc c'est pour ça que moi je prends ma caméra, pour montrer ce qu'est ce métier-là, mais surtout le montrer aussi avec un agriculteur heureux. Jérôme, c'est un garçon qui, dès le premier plan du film, chante. Il chante des chansons du Sud-Ouest, il chante des chansons populaires, parce que il aime son métier, c'est un passionné, il aime son territoire, il aime ses valeurs, l'histoire, il aime observer la nature. Et puis, sans vous dire ce qui se passe dans le film, il y a un petit garçon qui est son petit voisin qui vient d'arriver dans la région, qui n'y connaît rien à l'agriculture, et Jérôme l'invite à venir voir ce qui se passe sur la ferme. Et le petit, il met une casquette à l'envers comme le grand, et au fur et à mesure des semaines devant la caméra, il se passionne pour l'agriculture, et aujourd'hui il veut devenir agriculteur, il a 13 ans. Donc c'était ça, créer de l'enchantement en fait avec ce film, c'est montrer qu'il y a de l'avenir et que c'est un joli métier même si c'est dur.
Merci beaucoup Édouard Bergeon d'avoir été avec nous ce matin. Vous réalisez donc Rural, qui sort demain dans 180 salles en France et que vous pourrez voir notamment autour de Toulouse dans plusieurs salles comme l'Américaine Cosmographe.
Et plus que la colère agricole, Jérôme aime à rappeler qu'il veut incarner la fierté agricole. On le salue s'il nous écoute ce matin, comme tous ces agriculteurs de la région. On mange avec les doigts, tiens, au Moyen-Âge, et pof, la nappe apparaît. Histoire sur bout de tissu avec Stéphane Bern. Ce sera dans une seconde, juste après Elton John. Bienvenue, c'est Ici Matin. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Once I never could have hoped to win, you're stopping down the road, leaving me again. The threats you made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. Minutes, l'actu locale. À 8h, vous écoutez ici Occitanie, on va parler de la guerre au Moyen-Orient avec notamment Toulousain Thomas qui est Toulousain et qui est en vacances à Dubaï et s'exprime sur ici Occitanie après ceci.
Maman m'a appris à toujours aller de l'avant, même dans les moments difficiles. Mais quand elle nous a quittés, j'étais bouleversé, je savais pas quoi faire ni par où commencer. Alors j'ai appelé le 32 urgence d'essai. Un conseiller PFG était là pour moi et il s'est occupé de tout.
En cas de décès, appelez gratuitement le 3012. Une équipe urgence décès PFG vous répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour une prise en charge partout en France. Urgence décès 3012, un service PFG.
En 2026, la facturation électronique devient obligatoire. On ne dit pas que vous ne pouvez pas vous en sortir seul, mais on vous garantit qu'on peut vous éviter de nombreux pièges et décisions risquées.
N'attendez plus, rapprochez-vous de votre expert comptable pour réussir sereinement votre passage à la facturation électronique. Rendez-vous sur mafacture-monexpert.fr. Ceci est un message de l'Ordre des experts comptables.
Ici Occitanie.
Le réveil 100% local.
Ici Matin.
Et si vous venez de vous réveiller, il est 7h57, juste avant l'actu, un peu d'histoire chaque jour. Bonjour Stéphane Bern.
Et bonjour.
Alors on voyage au temps des seigneurs ce matin, au temps des nappes brodées aussi.
Et des mains grasses, du vin qui coule et des nappes bien blanches. Au Moyen-Âge, on mange avec les doigts, mais attention, toujours avec style. Nous sommes en 876 à l'abbaye de Compiègne. Ce jour-là, l'empereur carolingien Charles le Chauve reçoit une belle assemblée. Aux dignitaires, prélats, barons et abbés. Le carré VIP de l'époque.
Carré VIP, le plus dur n'est pas d'y entrer, mais d'y rester.
Avec capes et couronnes, est réuni pour un banquet somptueux. Les longues tables en bois sont couvertes de nappes d'un blanc éclatant et fraîchement lavées. On y sert viande rôtie, poisson en sauce, miche de pain, fromage, hydromel et bon vin. Et pourtant, aucune fourchette à l'horizon. À cette époque, les couverts ne sont pas encore en usage dans les festins aristocratiques. On utilise une cuillère pour les bouillons, un couteau pour couper, mais pour manger. On plonge directement les doigts dans les plats, à la bonne franquette. Cela peut sembler rustique, mais détrompez-vous. La bienséance est très codifiée. Avant de s'asseoir à table, chacun doit se laver les mains dans un bassin d'eau parfumée. Une fois installé, on s'essuie régulièrement les doigts, non pas sur ses habits, sacrilège, mais sur la nappe, en respectant sa zone. Car si vous dérapez et essuyez vos doigts sur la partie du voisin, vous passez pour un goujat.
En plus, elle est mal élevée.
Quelques siècles plus tard, lorsque Catherine de Médicis arrive en France avec ses fourchettes italiennes, les Français restent fidèles à leurs doigts. Ce n'est que sous Henri III au XVIe siècle que l'usage des couverts s'impose peu à peu. La prochaine fois que vous mangez vos frites avec les doigts, ayez une pensée pour Charles le Chauve.
Merci beaucoup Stéphane Bern, chaque jour juste avant 8h sur votre radio locale ici. À suivre dans la prochaine demi-heure, il s'installe en ce moment, c'est Guillaume Couquet, alias Guillaume Le Kiné à Toulouse pour la séquence Ici c'est rugby. Nous sommes le mardi 3 mars.
Ici Occitanie.